Les chars de combat, tels que nous les connaissons, sont introduits pour la première fois sur les champs de bataille par les Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Mais les chariots de guerre, tirés par des chevaux, datent de la lointaine Antiquité et apparaissent fréquemment dans les Écritures. Ils sont mentionnés, la première fois, au moment de l'exode du peuple hébreu hors d'Égypte. Dans le livre de l'Exode, on lit « Le Pharaon choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 3 hommes. » Je commence maintenant de lire le chapitre 6 du livre de Zacharie. « Je regardai de nouveau et je vis 4 chars débouchés d'entre les 2 montagnes de bronze. » Cette 8e et dernière vision conclut les messages que Zacharie reçoit en une seule nuit et qui brosse, à grands traits, l'avenir de la nation d'Israël. La dernière vision reprend le thème des 2 premières, d'une part, celle des chevaux qui parcourent toute la terre, et d'autre part, celle des cornes et des artisans, qui prédisent le châtiment des nations hostiles à Israël. On retrouve donc la même idée dans la 8e vision. Sauf qu'ici, il n'est plus question de cavaliers partis en reconnaissance, mais de chars de guerre tirés par des chevaux qui entrent sur scène après être sortis des 2 montagnes de bronze. Plus loin, l'ange dit qu'ils sont envoyés par l'Éternel pour exécuter le jugement des pécheurs dans le monde entier. Ce châtiment a déjà été suggéré dès la première vision. Mais alors, quand les cavaliers font leur rapport à l'ange de l'Éternel, ils disent « Nous venons de parcourir la terre et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille et calme. » Ici par contre, dans la 8e vision, ce calme est rompu et comme le prophète Agé l'a déjà annoncé, Dieu commence à ébranler les nations. Ces violentes secousses doivent accompagner la seconde venue du Messie, ce que confirment d'autres prophètes. Par exemple, Ésaïe écrit « L'Éternel va venir dans le feu, et ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère avec fureur, et pour accomplir ses menaces comme des flammes. Car c'est avec le feu que l'Éternel exercera son jugement, et avec son épée qu'il châtiera tous les humains, et l'Éternel fera un très grand nombre de victimes. » En hébreu, l'article définit les précède 2 montagnes. Ce détail grammatical a son importance, car il peut signifier qu'il est question de 2 montagnes spécifiques qui sont alors le mont Sion et le mont des Oliviers. En effet, les chariots de guerre partent vers le nord et le sud, ce qui correspond aussi à l'orientation de la vallée du Cédron ou vallée de Josaphat, qui est flanquée des monts Sion et monts des Oliviers. Oui, mais voilà, comme ces montagnes sont en bronze, un alliage de cuivre et d'étain, on est obligé de donner à ces montagnes un sens symbolique, ce qui veut dire qu'elles n'existent que le temps de la vision. Dans les Écritures, le bronze symbolise le juste jugement du péché. En effet, dans la cour extérieure du temple, en face de la porte d'entrée du tabernacle, se trouve premièrement la cuve de bronze, qui sert aux ablutions des prêtres dans l'exercice de leur sacerdoce, et deuxièmement, l'autel de bronze, ou autel des holocaustes. Ces 2 mobiliers du temple sont liés au rite d'expiation des péchés d'Israël. Et dans le livre de l'Apocalypse, quand Jésus pronce les sentences sur les 7 églises, l'apôtre Jean décrit le Seigneur en disant qu'il a des pieds qui étincelaient comme du bronze incandescent au sortir du creuset. Ces 2 montagnes de bronze font penser, d'une part, aux 2 colonnes de bronze à l'entrée du temple de Salomon, et d'autre part, à la mythologie des peuples voisins d'Israël. En effet, selon les croyances païennes de l'époque, 2 montagnes forment la porte du ciel, d'où le soleil s'élance le matin. Que ces deux masses de bronze représentent les colonnes du temple ou les battants de la porte du ciel, elles évoquent l'irruption de la puissance divine dans le monde des humains. La vision comprend quatre chars, un chiffre symbolique qui rappelle les quatre points cardinaux et qui signifie que le jugement s'éteint dans toutes les directions, il est universel. La terre entière subit le châtiment divin et pas le moindre recoin n'y échappe. Ces chars ont aussi un rapport avec la vision des quatre cavaliers de l'Apocalypse qui jugeront le monde au jour de l'Éternel, c'est-à-dire pendant les 7 ans de la tribulation. L'apôtre Jean les voit s'élancer l'un après l'autre quand Jésus-Christ, sous les traits d'un agneau, ouvre les 4 premiers des 7 sceaux du jugement. Ces 4 cavaliers de l'Apocalypse sortent de l'ombre et montent des chevaux qui sont respectivement de couleur blanc, rouge, feu, noir et blême. Dans la dernière vision de Zacharie, l'ordre des chevaux est différent. Ils se succèdent en commençant par le rouge, puis vient le noir, le blanc et enfin le blême. La signification des différentes couleurs ne nous est pas donnée, mais on peut la deviner. Seul le dernier des 4 chevaux, le blême, occupe la même position chez Zacharie et chez Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Dans sa première vision, Zacharie voit des chevaux de 3 couleurs différentes, roux, rouge, blême, puis blanc, mais aucun cheval noir. Je continue maintenant la description de la 8e vision de Zacharie. Au premier char étaient attelés des chevaux rouges, au second, des chevaux noirs. La couleur des chevaux est très significative. Le rouge est la couleur du sang versé et donc de la guerre. Dans le livre d'Ésaïe, on lit « Pourquoi tes vêtements sont-ils tachés de rouge et pourquoi tes habits ressemblent-ils à ceux des vendangeurs qui foulent oppressoirs ?»« C'est que j'ai été seul à fouler la cuvée et nul parmi les peuples n'a été avec moi. Oui, j'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai piétinés dans mon indignation. Leur sang a rejailli sur mes habits. J'ai taché tous mes vêtements. » Et dans le livre de l'Apocalypse, on lit « Un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. » Les cheveux noirs représentent la détresse, le deuil et la famine, décrivant une scène de jugement. Le prophète Ésaïe écrit « J'habillerai le ciel de noir et je le couvrirai d'un habit de toile de sac. » Pareillement, Jérémie dit « À cause de cela, la terre sera dans le deuil et le ciel deviendra noir. » Et dans le livre de l'Apocalypse, on lit « Je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargnez-les. » Je continue le texte. Au 3e, char était attelé, des chevaux blancs, et au 4e, 2 vigoureux chevaux mouchetés. La traduction du mot moucheté est incertaine, car il peut aussi vouloir dire blême, vert gris ou tacheté de rouge. Le mot pour cette couleur n'apparaît que 2 fois dans les Écritures. Ici et dans le livre de la Genèse, où elle décrit la couleur des béliers de Jacob. En tout cas, ces chevaux mouchetés, qui sont au moins de 2 couleurs différentes, leur donnent un aspect lugubre qui représente probablement la mort, due à plusieurs causes à la fois comme la peste ou une épidémie grave, ou encore la guerre et la famine. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean dit « Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Dans les Écritures, la couleur blanche a toujours une connotation positive. Elle représente la joie, le triomphe, le bonheur, mais aussi la victoire militaire, la justice et la vérité. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon écrit « Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. » Et dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit « Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle « Fidèle et véritable ». Il juge avec équité, il combat pour la justice. Je continue le texte. Je demandai à l'ange qui me parlait, « Que représentent ces attelages, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les quatre vents des cieux, qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » En hébreu, le même mot signifie « vent ». Souffle ou esprit. Ces quatre vents, personnalisés et animés d'une force destructrice, vont dans la direction des quatre points cardinaux. Ils pourraient simplement représenter la puissance de Dieu en action, mais il semble préférable de considérer ces vents comme des êtres angéliques qui partent pour exercer le jugement de l'Éternel. Avant de recevoir leur ordre de mission, ces vents se tenaient devant le Seigneur de toute la terre, prêts à lui obéir au doigt et à l'œil. C'est ainsi que les Écritures présentent souvent les anges. Dans le psaume 103, le psalmiste écrit « Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. » Et dans le psaume 104, « Tu fais des vents tes messagers, les éclairs sont tes serviteurs. » Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, la mention des quatre vents est toujours faite dans un contexte de jugement. Jérémie écrit, « Je ferai venir sur lui quatre vents des quatre coins de l'horizon, et je le disperserai à tout vent. » Dans toutes les nations, on verra arriver des fugitifs des lames. Et dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit, « Je vis quatre anges. Ils se tenaient debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » L'expression « le Seigneur de toute la terre » est un titre spécifique qui fait référence au règne universel du Messie pendant le millénium. On trouve aussi ce titre chez le prophète Michée. Je continue le texte. Le char tiré par les chevaux noirs se dirige vers le pays du Nord. Celui qui a attelé des chevaux blancs les suit. Les chevaux mouchetés partent en direction du pays du Midi. L'ange interprète indique maintenant à Zacharie les deux destinations qu'on veut prendre les chevaux de différentes couleurs. Les rouges ne restent pas sur la touche, car il en est question dans le prochain verset. Aucun chariot de guerre ne va à l'ouest ou à l'est, parce que d'un côté, c'est la Méditerranée, et de l'autre, le désert d'Arabie. Littéralement, le texte dit que les chevaux noirs partent vers la terre du Septentrion, une expression qui désigne habituellement la Babylonie et la Syrie. Même si sur une carte, Babylone est plutôt à l'est de la Palestine, pour s'y rendre, on est d'abord obligé d'aller en direction du nord. Parlant de l'invasion babylonienne, le prophète Jérémie écrit « C'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays. » Les cheveux noirs partent en premier parce qu'ils représentent le jugement de la guerre. Ils sont suivis des blancs, symbole de victoire. Cette image annonce le triomphe de l'Éternel sur ses ennemis, et plus particulièrement sur Babylone. Cette prophétie s'est déjà accomplie et s'accomplira encore une fois. En effet, à la fin des temps, pendant la deuxième moitié de la période appelée « tribulation », Dieu jugera le monde entier par un châtiment particulier dirigé contre Babylone, à cause du système perverse qu'elle personnifiera à cette époque. Mais le premier accomplissement de cette prophétie a eu lieu peu de temps après que Zacharie l'ait reçue sous forme de vision. En effet, même après avoir été conquise par Cyrus, Babylone n'avait toujours pas subi le châtiment et la destruction dont plusieurs prophètes l'avaient menacé. Or, il est nécessaire que cette ancienne capitale soit détruite à tout jamais, parce que, d'une part, il faut que toutes les prophéties dirigées contre elle s'accomplissent, et d'autre part, aussi longtemps que Babylone conserve l'espoir de retrouver son rang de grande puissance, elle peut redevenir menaçante pour Israël. Voilà pourquoi, dans cette dernière vision, Dieu fait voir à Zacharie le jugement prochain de l'ennemi du Nord. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en l'an 519, puis en l'an 514 avant Jésus-Christ, deux hommes se proclament rois de Babylone et prennent respectivement les titres de Nebuchadnezzar III et Nebuchadnezzar IV. Seulement voilà, Babylone est alors sous la tutelle de la Perse, et son souverain, Darius Ier, n'apprécie pas la plaisanterie, mais alors, pas du tout. Voyant son autorité bafouée, il mate ses rébellions avec la plus grande brutalité dans un immense bain de sang. Par la même occasion, il met à feu et à sang la ville de Babylone et sa région. Ces événements amorcent le début de la fin de cette cité maudite, ce qui est signalé dans la vision par les chevaux blancs de la victoire qui suivent les chevaux noirs de la destruction. Les chevaux mouchetés, quant à eux, s'élancent vers le midi. La première nation qui se trouve au sud d'Israël est Édom à l'est, puis viennent l'Égypte et l'Éthiopie. Aucun cheval blanc de la victoire ne va dans cette direction parce qu'il s'agit seulement d'un jugement partiel, mais avec deux composantes qui sont peut-être la guerre accompagnée de la peste, mais ça peut être deux autres calamités. Je continue le texte. Les rouges sortirent et demandèrent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit « Allez, parcourez la terre !» et ils s'élancèrent pour parcourir la terre. Les chevaux rouges sont les premiers à être mentionnés dans la vision de Zacharie, et les derniers à s'élancer. Leur mission est plus générale que celle des chevaux précédents. Ils représentent le jugement de toutes les forces qui, sur terre, sont hostiles à Dieu et à son peuple. Je continue dans le chapitre 6 avec les dernières paroles de la huitième et dernière vision de Zacharie. Puis il m'appela pour me dire, « Regarde, ceux qui partent pour le pays du Nord ont apaisé mon esprit dans le pays du Nord. » Ici, l'ange interprète donne de la voix comme un héros qui fait une proclamation. Il parle à la place de l'Éternel, mais s'adresse au prophète dont il requiert toute l'attention à cause de l'importance de l'information qui va suivre. Et qui aura une incidence sur l'avenir des colons juifs. En effet, si ces colons ont pu regagner leur pays d'origine, c'est à cause du décret du roi Cyrus et à la bonne volonté de l'empereur Darius Istats. Mais si leur ennemi babylonien arrive à rejeter le joug des Perses, les Israélites de Juda seront à nouveau en danger. Ici, à la fin de cette dernière vision, l'ange interprète revient sur ceux qui partent pour détruire Babylone. Il s'agit de la première troupe, la plus importante, car elle est composée de deux unités. Les chevaux de couleur noire en tête, suivis des chevaux blancs de la victoire. Ce départ des chariots de guerre pour le pays du Nord apaise l'Éternel, parce qu'il calme sa forte colère contre Babylone. La nouvelle importante que l'ange communique au prophète est que le jugement imminent de cette ville maudite est tellement sûr et certain que c'est comme s'il avait déjà eu lieu, ce qui signifie que, dorénavant, le peuple de Dieu n'a plus rien à craindre de Babylone. Comme je l'ai dit précédemment, cette vision prophétique a deux applications. Une relativement immédiate, et l'autre qui est encore à venir, puisqu'elle concerne la Babylone qui renaît de ses cendres et dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Pendant la tribulation de ces temps, qui est aussi la première phase du jour de l'Éternel, Dieu va détruire les systèmes économiques et politiques du monde parce qu'ils sont sous la coupe de l'Antichrist et qu'ils persécutent autant les Juifs que ceux devenus croyants pendant la tribulation. Dans la première vision de Zacharie, on pourrait s'interroger sur ce que l'Éternel allait bien faire suite au retour de mission des cavaliers et de leur rapport. Nous venons de parcourir la terre et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille et calme. Cette dernière vision de Zacharie annonce la réalisation du plan de Dieu pour les âges et pour l'histoire humaine, et en particulier sa victoire totale sur les nations qui oppriment son peuple.